Bonjour, vous écoutez Parole d'inclusion, un podcast du service des publications de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés. Ce podcast est l'interview d'une autrice ou d'un auteur dont l'ouvrage porte sur l'école et ou la société inclusive. Il est animé par Laurent Struman, responsable de la librairie de l'INSHEA. Aujourd'hui, nous donnons la parole à...
Véronique Geffroy.
Bonjour Véronique Geffroy. Vous êtes investie dans la formation des enseignants spécialisés à l'INSHEA depuis plus de 15 ans. D'abord comme enseignante en français langue étrangère, puis comme enseignante spécialisée auprès d'enfants sourds et malentendants. Ensuite, interprète français LSF, langue des signes française, pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous interroger à propos de votre ouvrage, publié récemment aux éditions l'INSHEA, « La formation des pédagogues sourds ». L'origine de cet ouvrage est une thèse de doctorat en didactique des langues, soutenue en 2015 et qui a obtenu le premier prix de thèse décerné par l'INSHEA en 2017. Tout d'abord, pourquoi utiliser l'appellation « pédagogue sourd » ?
C'est une façon de marquer le fait que les sourds qui se destinent à l'enseignement se voient avant tout comme des gens qui vont accompagner leur jeune père sourd d'âge scolaire vers l'école, qui vont les accompagner vers les apprentissages. Et c'est la définition, la première définition du mot pédagogue, c'est d'accompagner, normalement c'était d'accompagner l'enfant jusqu'à son école. Or là, on sent que les pédagogues sourds sont plus dans un accompagnement vers les apprentissages. Et la question qui vient immédiatement après, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on souhaite que ce soit des sourds face à d'autres enfants sourds qui enseignent. Alors, une des premières raisons à mes yeux, il y en a plusieurs, mais je vais en développer une ici, c'est que quand on voit que la dimension transmissive dans l'acte d'enseigner, l'enseignant lui-même se prive de grandes joies pédagogiques parce qu'il est, il n'est pas dans l'interaction avec ses enfants, avec ses élèves. Et les élèves aussi se voient privés d'un certain nombre d'échanges et de savoirs et de savoir-faire qui sont liés à la collaboration entre élèves et à l'interaction avec un enseignant dans une langue confortable. Alors, les sourds qui se destinent à l'enseignement ont une connaissance expérientielle de la surdité qui fait qu'ils accueillent la production d'un enfant sourd. Et que, alors que la production des enfants sourds est très contrainte en langue vocale, eux vont utiliser d'autres stratégies. Ce que je dis là est valable pour des enfants sourds sévères et sourds profonds, mais aussi pour des enfants avec des surdités moyennes. Quelquefois, on a tendance à séparer les enfants en fonction de leur degré de surdité. Mais toujours est-il que des sourds de naissance vont avoir des stratégies qui vont pouvoir partager avec l'enfant sourd ou ils vont pouvoir amener l'enfant sourd à ses stratégies qu'ils connaissent de l'intérieur. Et si je voulais, par exemple, choisir une situation que je trouve, moi, assez caractéristique, c'est le fait que les pédagogues sourds fonctionnent beaucoup avec ce que l'on voit. Et donc, ils vont amener l'enfant à réfléchir à partir de ce qu'il voit. Et donc, cette façon d'envisager les choses, pour moi qui suis entendante, ça me demande un effort. Je suis obligée de réfléchir et je ne suis pas toujours pertinente. Alors que pour un pédagogue sourd, mobiliser et solliciter à bon escient le regard et faire des liens entre ce qu'on voit et ce dont on parle, le faire à des moments judicieux, le faire dans un échange verbal qui a du sens, ou dans une activité qu'il sait convenir aux enfants sourds, c'est important. Et c'est un vrai atout qu'ont les pédagogues sourds.
Qu'est-ce qui a été si compliqué pour aujourd'hui avoir des pédagogues sourds ?
D'abord, je voudrais dire que la partie n'est pas gagnée pour les pédagogues sourds. Leur place est difficile à conquérir et à maintenir, même si ça étonne de moins en moins le public tout venant que des enfants sourds utilisent une langue gestuelle à l'école, y compris pour leurs apprentissages. Et ça étonne aussi de moins en moins que des sourds de naissance, à l'âge adulte, envisagent les métiers de l'enseignement. Mais c'est quelque chose qui n'a pas toujours été possible, loin de là. Et la situation qu'on connaît actuellement, elle s'appuie sur l'ouverture des premières classes dans laquelle la langue des signes était une langue d'enseignement possible. Et ça, ça ne date que de 1984. Et à l'époque, c'était à titre très expérimental. Donc, avant 1984, on a connu une période de 100 ans, un siècle, durant lequel aucun sourd n'avait la possibilité d'être enseignant, ni de se former, ni d'accéder au métier de l'enseignement. Et c'était lié au fait que la langue des signes avait été interdite en 1880, non pas par une loi, mais par la réunion d'enseignants spécialisés de la surdité dans un congrès, le congrès de Milan de 1880, qui est un véritable traumatisme collectif dans l'histoire des sourds. Et du coup, les derniers sourds qui avaient possibilité d'enseigner ont quitté petit à petit leurs fonctions dans les années qui ont suivi 1880. Ce qui était arrivé là, ça n'avait été possible, si on remonte encore une fois dans le temps, qu'un siècle, un siècle plus tôt, avec une figure qu'on connaît bien quand on parle de la surdité, qui est l'abbé de l'Épée. Et l'abbé de l'Épée a été le premier à rassembler des enfants sourds autour de lui pour un enseignement collectif, et même collectif à très grande échelle, si bien qu'assez vite, il a eu besoin d'être soulagé de certaines tâches pédagogiques et qu'il s'est appuyé sur ses plus grands élèves. Et donc, ce sont ses plus grands élèves qui sont devenus, on va dire, les premiers répétiteurs, les premiers relais pédagogiques. Et puis, ça a perduré dans les institutions. Ça s'est même institutionnalisé, enfin confirmé avec des postes de répétiteurs. Certains se sont battus pour avoir le statut d'enseignant. Et puis, Milan est arrivé. Et puis, depuis 40 ans, on essaye de remonter les choses. Mais ça n'est pas simple.
Peut-on dire que l'on va vers plus de bilinguisme ?
Statistiquement, il y a très très peu d'enfants sourds qui sont scolarisés dans des classes à projet bilingues. On est à même pas 10%, donc on pourrait s'étonner. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, les dispositifs où la langue des signes et la langue d'enseignement sont très rares et très compliqués à mettre en place. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que pour un parent, les parents sont majoritairement entendants, donc pour un parent, c'est très très difficile de renoncer à sa propre langue, de faire une place majeure dans la famille à une autre langue, parce que c'est comme ça que se pose la question de l'arrivée d'un enfant sourd. Hein? Alors, ça suppose que cette langue devienne aussi la langue du quotidien familial. Donc, en général, les parents choisissent la langue nationale, surtout s'ils sont natifs de l'Hexagone, hein, mais voilà, donc la langue nationale, ou alors leur langue à eux, leur langue d'origine à eux, hein, ce qui est tout à fait humain, mais ils aimeraient la garder aussi pour le projet de vie de cet enfant qui arrive et qui est sourd. Et souvent, ils découvrent les vrais enjeux tardivement, faute d'avoir eu tous les éléments en main pour décider d'un projet linguistique tourné vers une langue gestuelle, puisque c'est ça qui nous occupe ici. Souvent, ils ne sont pas informés dans les premières années de vie de l'enfant ou pas. Enfin, ils ne voient qu'après coup ce que ça aurait pu changer, à moins d'avoir fait une rencontre qui les a vraiment fait prendre une autre orientation à un moment de leur vie. Mais ça, ce n'est pas toujours le cas. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'essentiel, c'est que l'enfant ait une langue solide, riche et confortable. C'est une langue, je dis bien riche, solide et confortable, parce que sinon, on est dans un inconfort permanent. Hein, et on a du mal à amener l'enfant au mieux de ses capacités, ce qui est dommage. Donc, cette langue solide, riche et confortable ne s'installe que si on fréquente assidûment et régulièrement des locuteurs de qualité dans cette langue, hein, et si on approche aussi la culture qui va avec. Ça, c'est valable pour toutes les langues, pour les langues gestuelles aussi. Donc là, on sent l'importance de pédagogues sourds, parce qu'ils vont servir de nourrice linguistique et ils vont avoir ces stratégies et cette culture propre aux sourds. Mais ça suppose aussi éventuellement de ne pas en rester à l'école et aussi de fréquenter des sourds bons signeurs, d'avoir par exemple des activités ou de participer à des événements de la communauté signante. Donc c'est vraiment presque tout un programme, c'est toute une orientation familiale. Et ça peut être effrayant. D'ailleurs, ça effraie l'institution française, la République française, a beaucoup de mal avec les autres langues de France que la langue française. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse être optimiste en pensant qu'on va vers plus de bilinguisme pour les sourds. On a encore trop souvent, dans les endroits où on propose de la langue des signes, trop souvent une démarche un petit peu de langue pansement. On n'en fait pas vraiment une langue pour l'enseignement, pour construire la pensée, pour formaliser ses acquisitions, pour pouvoir débattre, discuter, philosopher avec tout le monde et éventuellement aussi s'amuser, chanter, faire des blagues, etc. On n'en est pas là.
Pour conclure, Véronique Geoffroy, pouvez-vous nous dire où nous en sommes aujourd'hui ?
Avec ce que je viens de dire dans les questions précédentes, là, vous vous doutez bien que les pédagogues sourds rencontrent encore beaucoup d'obstacles pour accéder au professorat. Quand je dis professorat, c'est être enseignant et avoir un statut de professeur. Donc, il y a quand même des progrès nets, notamment deux points importants à avoir en tête. C'est que maintenant, on convient que, sauf troubles particuliers en plus de la surdité, les sourds peuvent accéder à l'abstraction. Ça peut paraître idiot de dire ça, mais pendant longtemps, ça n'était pas du tout acquis. Voilà. L'autre chose qui me semble importante, c'est que pour toutes les langues, mais aussi pour les langues gestuelles, on sait maintenant que d'avoir une bonne compétence dans une langue n'empêche pas, n'entrave pas l'acquisition d'une autre langue. Donc, passer par la langue gestuelle, ça n'est pas ça qui empêche la construction d'une compétence en langue française. D'ailleurs, on a des exemples de sourds gestuels, de familles de sourds gestuels, qui ont une bonne compétence à l'écrit. Alors, on ne peut pas toujours prendre les exceptions pour en faire des règles, mais c'est quand même quelque chose qu'on a maintenant en tête quand on se pose des questions comme celles que je me pose. Donc, la formation, avec les lois récentes, l'accès à la formation et donc normalement au métier et à la titularisation ne devrait plus être refusé aux sourds, mais on connaît quand même encore une situation de discrimination structurelle. Parce que pour que des sourds accèdent à la profession d'enseignant et à la titularisation et au statut par la voie normale, il faut qu'aucun contretemps ne soit intervenu dans leur parcours scolaire, c'est-à-dire ni au collège, ni au lycée, ni à l'université. Hein, c'est quand même pas rien. Jusqu'au diplôme exigé pour tout le monde, si on veut vraiment que ce ne soit pas de la discrimination positive. Donc, il faut qu'ils aient accès à des masters MEF ou des masters, comme tout un chacun, avec un parcours qui ne soit pas un parcours du combattant tous les ans. Voilà. Et ça, ce n'est pas facile. Donc, on rencontre plus souvent des sourds qui ont des parcours de formation très atypiques, qui ont fait fonction en tant que contractuels, qui finissent par être titularisés quelquefois par le jeu de commission spéciale. Hein. Et la seule solution actuelle pour qu'ils soient titularisés, on va dire, dans une certaine continuité logique, c'est de passer le CAPES de LSF. Alors, le CAPES de LSF, ça suppose d'être professeur de langue, donc la langue étant la langue des signes. Mais en fait, il y a très peu de postes au concours chaque année. Ça, c'est pas, il n'y a pas que le CAPES de LSF qui est dans ce cas-là. Et surtout, tous les enseignants, tous les sourds qui veulent accéder à l'enseignement n'ont pas tous envie d'être professeurs de langue dans une option langue des signes au collège ou au lycée, avec principalement des enfants entendants face à eux qui veulent passer l'option au bac ou au brevet. Voilà. Donc, c'est pas satisfaisant. Et puis, une fois qu'ils sont en poste, tous ces gens-là, il faut recommencer le combat pour avoir éventuellement accès à des formations continues et à être dans le même parcours que leurs homologues entendants et échanger et s'enrichir éventuellement avec eux, etc. Donc, c'est quand même pas simple. Ce que je voudrais ajouter, c'est que une fois en poste, après Donc, tout cet arrière-plan difficile et méritoire, les professeurs sourds, souvent, vivent un isolement professionnel assez important, assez aigu, et ça, on n'y pense pas. Pas assez, en tout cas. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que dans une salle des profs de collège, par exemple, ou une salle des professeurs des écoles dans un établissement scolaire, on va échanger des petites choses comme « bonjour, ça va »,« on est content qu'il y ait de la langue des signes chez nous »,« bienvenue dans l'établissement », et puis après, toutes les réunions pédagogiques, tous les échanges informels, comment ça peut se passer, comment s'organise la convivialité, la collaboration et le partage. Ça, c'est très, très compliqué. Et on s'aperçoit que les professionnels actuels en poste qui se sont battus pour être là où ils sont, sont dans des situations souvent pas très enthousiasmantes. Et on aimerait qu'il y ait beaucoup plus d'équipes mixtes. On pourrait dire mixte, c'est-à-dire des sourds signeurs, des entendants signeurs, des entendants pas signeurs, et que voilà, on ait plus de mixité dans les équipes pédagogiques.
Merci Véronique Geffroy pour cet entretien. Je rappelle simplement le titre de votre ouvrage, La formation des pédagogues sourds, édité aux éditions de l'INSHEA. C'était Parole d'inclusion, un podcast de l'INSHEA. Merci à chacune et à chacun pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain. Notez dès à présent la date dans votre agenda pour ne pas l'oublier ou abonnez-vous. À très bientôt.